Gloire à Dieu. Je bénis notre Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là ce matin et surtout cette grâce particulière qu'il me donne de partager la parole, cette nourriture pour notre âme. Et merci au pasteur Christian et merci à la comité pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir apporter la parole. Et ce matin, le Seigneur nous invite à prêter l'oreille à sa parole. Le Seigneur dit, prête l'oreille à ma parole. Ma parole est très, très importante pour notre âme, pour notre vie et pour notre vie chrétienne. On va voir deux trajectoires, deux histoires dans la parole. Je voulais prêcher sur l'œuvre accomplie de Christ. On va voir ce que Christ nous a amené. Mais avant, il faudra qu'on aille au commencement, parce que c'est là où tout a commencé. C'est dans Genèse chapitre 3, verset 1. Nous connaissons tous cette histoire. Nous connaissons Adam et Ève, la créature. Dieu va leur donner un privilège, un jardin pour gérer. On saura que Adam et Ève, c'était des hommes parfaits. Ils n'avaient pas de péché en eux. Dieu les a conçus comme ça, dès le départ. Dieu les a conçus pour avoir cette intimité constante, tous les jours avec eux. Dieu leur a donné le jardin et leur a dit, cultivez. C'était comme un peu de concierge. Prenez-en soin. C'est dommage, hein, aujourd'hui, c'est pas trop le cas. Hein. On a tout mis de côté, mais voilà un peu ce que Dieu leur dit, mais voici, je vous ai tout donné, je vous ai donné ce qu'il fallait, je vous ai donné en fait tous ces territoires d'Éden pour que vous puissiez gérer. Il y a toutes sortes d'arbres, oh ils sont magnifiques, il y a tout dans le jardin, des fruits succulents, trop bien. Mais par contre, il y a un mais. Il y a un arbre au milieu du jardin, c'est l'arbre des connaissances du bien et du mal. Et aussi, il y avait un arbre, l'arbre de vie. C'est des natures. L'arbre de vie, c'est une nature. Jésus-Christ a dit, je suis la vie. L'arbre des connaissances et du mal, c'était aussi une nature. Dieu leur a dit, vous n'y toucherez pas. Vous n'y toucherez pas. Mais voilà, un jour, alors que Adam et Ève sont là, tranquilles, paisibles, et le serpent va débarquer. Et on saura que Lucifer connaît aussi la parole. Parce qu'il était, la Bible dit qu'il était un ange de Dieu. C'était un ange qui avait une place très importante. Mais par son orgueil, Dieu l'a précipité. Mais il va venir, lui, en étant malin. Et il lui dit, mais sérieusement, Ève, est-ce que Dieu vous a réellement dit que vous ne mangerez pas de l'arbre de la vie? Est-ce qu'il l'a réellement dit? Il a simplement pris la parole, il l'a camouflée. Satan a tordu la parole. Et Ève, de son côté, il a laissé faire. Elle a laissé faire. Ève a donné l'écoute. Elle a donné du crédit à la parole de Lucifer. Elle a donné du crédit. Elle lui a laissé le temps de pouvoir argumenter. Alors qu'il ne savait ce que Dieu avait dit, réellement dit. Il dit, vous ne mangerez pas. La femme vit comme... Il dit, mais oui, mais finalement... Dieu nous a dit que nous mangerons, la femme répondit, dit, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, mais vous ne mourrez point. Non, Dieu vous a dit des bobards. Il est en train de vous mentir. Vous ne mourrez point. Et les jours où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir finalement. Et vous serez comme des dieux. Lucifer dit à Ève, mais non. Il dit, les jours où vous mangez cet arbre-là, ce que Dieu vous a caché, c'est que vous allez devenir comme lui. Vous allez devenir votre propre Dieu. Ça veut dire que vous allez vous gérer vous-même. Vous n'aurez pas besoin de lui. Non, vous n'en aurez pas besoin. Mensonge. Mais camouflé, bien camouflé. C'est ce qu'on appelle un mensonge bien avec des fraises autour, quoi. Et la Bible dit que la femme, elle mangea, elle prenait le fruit et elle en mangea. Moi, je me demandais, mais où était Adam? Adam était où? Pendant que Ève était en train de se faire malmener par Satan, où était Adam? Mais la Bible dit qu'il n'était pas loin. Adam n'était pas loin. Mais je dis, mais pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il ne réagit pas? Hey, ma femme est en train de se faire coster par un gaillard que je ne connais pas. Hey, oh, 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 oh. Hey, c'est mon épouse, sérieux. Laisse-la tranquille. Ou peut-être venir écouter. Il dit, c'est quoi la discussion? C'était quoi la discussion? Non. Adam était là, mais comme s'il n'était pas là. Et la Bible dit, ben, on connaît l'histoire. Hein? Elle va en manger. Et la Bible dit, elle va donner aussi à Adam. Sans que se pose des questions, Adam va en manger aussi. Et c'est fini. C'est fini. La désobéissance. La Bible dit que leurs yeux s'ouvrirent. Les yeux s'ouvrirent. Pour la première fois, ils se rendent compte. Ah, on est nus. Wow. Mais ça, j'ai fait un parallèle. Je me suis dit, mais c'est vrai. C'est ce qu'on appelle. Ils étaient innocents avant. Ils étaient innocents vis-à-vis de Dieu. Leur âme était innocente. Leur esprit était pur. C'est comme les enfants. Regardez nos enfants à bas âge. Moi, j'ai deux filles. J'ai 6 et 4 ans. Mais quand elles sortent de la douche, elles viennent courir encore toutes nues au salon. Elles n'ont pas honte parce qu'elles sont encore innocentes. L'innocence. Et à partir du moment où elles ont mangé des fruits, elles ont perdu leur innocence. C'était fini. Et ils ont perdu ce privilège qu'ils avaient avec Dieu. Ils ont perdu la relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu. Fini. Il y a une séparation. Séparation. Fini. Dieu dit, mais où êtes-vous? Dieu, on est caché. Pourquoi vous vous cachez? C'est ce qui nous arrive, hein, quand on pêche, notre âme nous tourmente. On se cache parce qu'on se culpabilise. On se dit, j'aurais pas dû. C'est caché. Mais on verra que Dieu, par amour, c'est encore le même Dieu. Ok. Maintenant, il s'est dit, comme ils ont péché, comme ils ont désobéi, et que les péchés sont rentrés, maintenant, je vais leur éviter de pouvoir prendre les fruits de l'autre arbre, l'arbre de la vie. Sinon, déjà que, avec ce qui s'est passé, on est devenu des pécheurs chroniques, on allait devenir des pécheurs éternels. On allait devenir des péchés éternels. Alors, j'imagine pas Dieu qui a les péchés en horreur. Comment il aurait dû supporter ces hommes qu'il a créés à son image pécher continuellement? Ça aurait été terrible pour lui. Terrible. Alors, on connaît ce qui va arriver. Hein. Il y aura un chérubin, il va fermer le jardin d'Éden, puis fini. Il dit, vous allez vous débrouiller autrement. Et on saura que dans l'histoire, Ève n'était pas. Souvent, quand on parle de ces histoires-là, il faudra bien planifier les choses. Il y avait un responsable dans le jardin, il s'appelle Adam. Ève était coupable, mais il y avait un responsable, il s'appelle Adam. Ok, maintenant, chacun va avoir pour sa pomme. Vous avez fait des bêtises, vous allez payer. Le serpent en a eu pour lui, la femme en a eu pour elle, et Adam aussi. Et on sait ce qui va suivre. Les couples vont aller s'installer, ils vont avoir les enfants, premier meurtrier, premier assassin dans l'heure de l'humanité. Premier assassin, paf, fini. Et les mâles vont continuer, les mâles en pire. Ça veut dire que l'homme va devenir encore de plus. Il va devenir un as en faisant du mal. Le mal est tellement entré dans l'homme, il est devenu un ingénieur pour créer le mal. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Parce que les anges ne comprennent pas. Les anges se disent, oh, c'est fini pour ces hommes. Ils sont foutus. Dieu va les rayer de la liste. Fini. On ne les verra plus. Mais il est tellement amour. Et cet amour-là, il va les manifester. Moi, j'ai juste eu un texte sur Job. C'est Job chapitre 15, verset 18. Où il y a un des amis de Job qui va dire, en fait, il va dire à Job, il va l'expliquer. Il va dire, au chapitre Job 15, verset 14, il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Si les cieux ne sont pas purs devant lui, donc ça veut dire devant le Dieu, si les cieux ne m'aiment pas pur pour lui parce qu'il est trop saint, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui voit l'iniquité comme de l'eau. Regarde où on est. Et ces dieux-là nous aiment, ils continuent à nous aimer. Et les anges ne comprennent pas. Satan ne comprend pas. Comment ils continuent encore à aimer ces êtres-là? Et Satan ne comprend pas l'amour de Dieu. Les anges disent, c'est incroyable. Tu continues à les aimer malgré ça, il fait oui. Je les ai créés, ce sont mes images. Je les ai créés. Et on connaît la suite. Premier Adam, combat avec les Satan, avec Lucifer. Adam est KO. Paf, fini. Lucifer s'est dit, je suis vainqueur. Il est parti avec sa victoire. Ah, Dieu, dans sa grâce, maintenant il va commencer à cogiter. Il va réfléchir. Il fait, non, il ne faut pas que je laisse comme ça. Je ne vais pas laisser mes enfants comme ça, ce n'est pas possible. Je ne veux pas les laisser dans cet état. Je les aime trop. J'ai besoin de cette relation avec eux. J'ai besoin d'interagir avec eux. Cette relation-là qu'il a besoin quotidiennement avec nous, qui nous attend dans le lieu secret. C'est ça, ce que Dieu-là aime. Il veut nous avoir avec lui. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas nous partager. Et malheureusement, c'est nous qui manquons de temps. Lui, il est toujours dans les lieux secrets. Mais c'est nous qui n'en sommes pas, on n'est pas là. On est trop préoccupés par nos petites affaires, par la pression de ce monde. On n'a pas le temps. Et Dieu dit, il faut que j'ai trouvé une solution. Il va envoyer les prophètes. Les prophètes vont arriver. Les prophètes vont faire leur boulot. Ils vont annoncer l'évangile. Ils vont annoncer l'évangile de leur époque, plutôt des prophéties. Ils en vont annoncer. Mais Dieu dit non, c'est pas suffisant. Les gens vont commencer à prendre des animaux à la place pour des sacrifices, parce qu'il faut du sang. Il dit non, c'est pas ça. Les sangs d'animaux, c'est pas suffisant. Il faut autre chose. Et Jésus va débarquer, il dit, mais voici Père, envoie-moi. Et le deuxième Adam va débarquer, Jésus-Christ homme. Je ne vais pas relater son histoire. Dès sa naissance déjà, Satan voulait à tout prix l'éliminer parce qu'il savait qu'il y a. Il dit, j'en ai un autre, il faut que j'essaye. Lui aussi, il faut que j'essaye. Je vais essayer de l'éliminer. Matthieu. Ou plutôt, je ne priais plus, j'aurais pris Luc. Alors, Luc 23, verset 26. Alors que Christ va faire le ministère de son Père, on connaît son histoire, Il va être tout prêt, il va guérir les gens, il va apporter la bonne nouvelle, il va enseigner, faire ce que son papa lui a demandé. Puis maintenant, il arrive en temps, ben, il faudra payer. Ah non, pardon, c'était Matthieu 4, oui. C'est plutôt Matthieu 4, où j'allais voir la première tentation. Jésus, il va finir son jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Il était dans le jeûne, pourquoi ? Parce que simplement pour recevoir le cahier des charges de son papa. Donc son papa a déjà tout planifié. Voilà ce que tu vas faire, voilà qui tu vas guérir. Voilà comment tu vas apporter la parole. Et la Bible dit qu'il ne faisait, Jésus-Christ disait, il ne faisait qu'est-ce que son père lui disait de faire. Et la Bible dit, chapitre Matthieu 4, verset 1, il dit, « Alors que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et les tentateurs s'étant approchés, il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. » Ah. Même mode opératoire avec Ève. Même mode opératoire. Il va le tester avec Jésus. Ah, sur la base de la parole, hein, en plus. Sur la base de la parole. Satan n'a pas peur du fait qu'on sort du jeûne, qu'on soit rempli du Saint-Esprit ou l'onction. Non, ça ne lui fait pas peur. Non. Il était puissant, lui aussi. Ce n'est pas ça qui lui fait peur. Satan n'a pas peur de nous parce qu'on vient de sortir d'un jeûne. Rien du tout. Ce qui fait peur, Satan, c'est la parole. C'est ce que Ève n'a pas fait. Ça veut dire répondre par la parole. Et ce que Jésus a fait. Jésus lui a répondu par la parole. Parce que Jésus connaît la puissance de la parole. Il a contré par sa parole. Il dit, voilà ce qui est écrit. Et je dis, il est écrit. Il dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ou bien il va continuer. Il est coriace, celui-là. Il fait oui. Et le diable le transporta dans les villes saintes, le plaça sur le haut des temples et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est pas faux ce qui est écrit. Mais Jésus lui répondit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parole contre parole. Parole contre parole. Ah! Et la Bible dit, il transposta pour une nouvelle fois sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Les royaumes du monde et leur gloire, pourquoi? Mais parce que Adam et Ève lui ont cédé. Parce que c'est Adam et Ève, c'est eux qui étaient le maître de la terre. Dieu leur a donné cette autorité-là, Dieu leur a donné cette opportunité de pouvoir gérer, mais ils l'ont cédé à Satan. Satan dit, ben oui, Jésus, moi je les donne volontiers. Je les donne volontiers. Et Jésus lui a répondu, il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable les laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. Par la parole. Par la parole. Jésus n'a pas essayé de l'argumenter. Il n'a pas essayé d'argumenter par ses propres paroles. Il a pris la parole de Dieu. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit, nous aussi, dans notre vie quotidienne, de contrer Satan par la parole. Et c'est pourquoi cette parole-là, ça doit être notre quotidien, cette parole. On ne devait pas l'abandonner. Il dit à Josué, il dit, mais médite cette parole nuit et jour. Jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement selon elle. C'est ça, c'est ton mode d'emploi, c'est ta marche ici sur terre. Je t'ai tout donné, là-dedans je t'ai tout donné. J'ai tout donné à la parole. Car ma parole est la vérité, ma parole elle est puissante. C'est ma parole qui vous conduit, c'est pas autre chose. C'est ça qui nourrit votre âme, la parole de Dieu. Et Jésus l'a compris. Et voilà que Satan... Il va dire, ok, il percute, deux, gauche, droite, bam! Satan est sur les cordes. Il dit, waouh! Je dis, celui-là, il dit, c'est un gros morceau que j'ai hérité. Je dis à Satan, attends, c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y aura un autre ordre. Satan, il s'est dit, celui-là, il faut que je l'élimine, il faut que je par tous les moyens. Et dans l'histoire avec Christ, on sait combien de fois il a failli se faire lapider. Combien de fois? Et Jésus va leur dire, mais il va dire aux Sadducéens et aux pharisiens, mais vous ne savez pas dans quel esprit qui vous anime. Vous ne savez pas. Quel esprit qui vous anime? Il dit, pourquoi vous voulez me lapider? Ce n'est pas encore mon heure. Laissez tranquille, ça va arriver. Soyez tranquille. Ça va venir. Ça va venir. Et dans son parcours, et on va arriver maintenant où Dieu va décider que c'est le moment de sauver son peuple. La Bible dit dans le jardin de Gethsémané, pendant qu'il priait, la Bible dit que la sueur, s'est transformé en grumeaux de sang, tellement que c'était lourd. C'était lourd, c'est que Dieu lui a dit, voilà ce que tu vas subir. Tu vas porter les péchés de l'humanité. Il a dit, waouh, Seigneur. Il dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Il dit, c'est trop. Mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais c'est lourd. C'est lourd. Luc, chapitre 23. Verset 26. Comme il l'amenait, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et les femmes qui se frappaient la poitrine se lamentaient sur lui. Et Jésus leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, ça devait être la joie. Si vous avez su ce que moi je suis en train de faire là, vous devez plutôt danser. Oui, parce que ça devait être une joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui, en fait, finalement, a décidé d'accepter de mourir à votre place. Ça veut dire que votre condamnation à vous, c'est moi qui les prends. Si ces jours-là, on méritait 10 coups de fouet, Jésus dit, ouais, je prends 10 coups de fouet à leur place. Mais on devait remercier cette personne-là. On devait lui dire merci. On devait se réjouir. Il dit, femme, ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vos enfants. Réjouissez-vous de ce que moi, je suis en train d'aller maintenant pour accomplir ce que Dieu voulait pour vous. Et il dit, car voici les jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Et je vais aller plus loin. Et voilà maintenant ce qui va déterminer l'œuvre de la croix et l'œuvre accomplie. Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Adam et Ève, quand ils sont partis, il y a eu la séparation, on n'a pas entendu le pardon. Adam et Ève, ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Donc d'un côté, comme s'ils avaient accepté leur sort. Ils sont partis sans pardon. Et le deuxième Adam arrive et dit, voilà ce que moi je vous apporte. Je vous apporte le pardon. Le pardon pour vous libérer, pour vous réconcilier avec le Père. Le pardon, la puissance qui libère. Et dans la prière de notre Père, on voit comment Jésus-Christ nous enseignait. Il disait, mais oui, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc le Père est en train de dire, oui, moi, je vous pardonne, mais je vous donne aussi cette force de pouvoir pardonner. Ça veut dire que si moi je vous pardonne, vous devez pardonner aussi. Vous devez avoir un cœur qui pardonne aussi. Mais on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner. On garde rancune dans nos cœurs. On emprisonne des gens dans nos cœurs. Vous savez ce que c'est une prison? Les gens qui sont en prison, ils vont pas faire leurs besoins chez eux. Hein. Ils font leurs besoins dans la prison. Alors imagine si vous les renfermez dans votre cœur. Non, mais c'est fort, frères et sœurs, c'est fort. Vous l'emprisonnez, vous l'enfermez au-dedans de vous. Et vous, vous bloquez votre pardon au ciel. Dieu dit, si vous ne pardonnez pas, je ne vous pardonne pas non plus. Regardez toutes les maladies qu'on a. Regardez. On a des situations créées par nous-mêmes. L'Éternel dit, le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais c'est ce que j'ai dit, je voulais donner, moi, le pardon. Et pour aller plus loin, et Jésus-Christ va être cloué sur la croix. La Bible dit que les passants vont l'injurier, ils vont l'insulter. Mais ceux qui l'ont insulté là, ce n'est pas des gens du dehors. Hein. C'est le même à qui il a donné du pain et du poisson. Ah, toi qui as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. Waouh, quelle insolence. Et il va être sur la croix, verset 46, il va dire, Jésus est crié d'une voix forte et dit, Père, j'ai remis mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il respira. Pourquoi il a remis son esprit? Parce que son esprit, bien évidemment, notre esprit à nous, c'est ce que Dieu nous a donné comme un cœur. L'esprit retourne auprès du Père, mais l'âme. Dans Ézéchiel chapitre 18 et 20, il est dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Donc, Jésus avait bien une âme. Son esprit est retourné vers le Père, mais son âme devait aller dans le séjour des morts. Parce qu'il a porté les péchés de l'humanité. Le Père ne pouvait plus le voir. Le Père ne pouvait plus le supporter. La Bible dit que Dieu a les péchés en horreur. Dieu n'aime pas les péchés. Dieu déteste les péchés. Son propre fils, fini, il ne pourrait plus le regarder. L'âme de Christ dans le séjour des morts. Ah! Là, maintenant, Satan arrive, il va jubiler. Il fait « Wow !» Il est dans le tombeau, oui. Hey, champagne et des biscuits. On va fêter ça. On va fêter. Il dit « Je l'ai eu. » Encore, il croyait quoi, lui? « Je l'ai eu. » Premier jour, Satan est dans la fête. Deuxième jour, ils sont dans la fête. Troisième jour. Oh! La résurrection, la puissance de la résurrection, c'est ce qu'on appelle la puissance de la croix. Christ va être ressuscité. La Bible dit que Dieu, c'est ce que David avait dit, il dit, tu ne permettras pas que le corps de ton serviteur connaisse la décomposition. Il ne pouvait pas être décomposé dans le tombeau, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non. Pas possible. Dieu dans sa puissance, le Saint-Esprit, il a dit, c'est ton œuvre maintenant. Il va quitter les ciels, il va traverser la terre, il va aller sous l'enfer, il va aller les chercher. Il dit, c'est maintenant, 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 Christ est ressuscité, reviens à la vie. Christ est ressuscité et Jésus vient d'accomplir son œuvre. Pour qui? Pour toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous. C'est pour nous, c'est pour toi et moi. On devait se réjouir jour après jour. Je me suis dit, Seigneur, oh Jésus, si tu n'étais pas là, on serait perdu. Perdu, perdu à jamais. Perdu à jamais. On continuera à errer, être des pécheurs chroniques jusqu'à on ne sait pas où en finir. Et Jésus-Christ va. Il va retourner auprès de son Père. Il dit, papa, j'ai accompli l'œuvre. J'ai restauré. J'ai restauré. Il dit, maintenant, l'homme, tu pourras le regarder à travers mon sang. Et c'est pourquoi Dieu, quand il nous regarde à travers le sang de Jésus. Il ne voit plus nous. Il voit Jésus, il voit le sang de Christ et il nous voit parfaits, purs derrière. Il nous voit comme des êtres parfaits. C'est pourquoi nous avons ce privilège d'aller dans les lieux secrets. On peut maintenant aller dans les lieux secrets librement. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y en a pas. Librement, on peut se tenir devant lui, librement. Et on n'appelle plus Dieu, on l'appelle Père. Pour terminer, j'ai juste une image pour voir la conséquence. Et en ce moment où je vous parle, Satan, quand on vient lui dire que Christ est ressuscité, il dit, mais je ne comprends pas. Là, je suis KO. C'était le dernier coup de massue. Paf, KO, fini. Ce qu'il est en train de faire, là, il vit ses derniers jours. Il est là juste pour venir nous intimider, pour venir encore nous faire peur. Mais on sait qu'il est déjà vaincu, c'est fini. Il attend sa fin. Et voici ce tableau-là représente ce qu'on a hérité d'Adam et ce que maintenant nous sommes en Christ. Regarde tous ces privilèges. Regardez. Du rejet à l'amour, du châtiment au pardon, de malédiction aux bénédictions, de meurtrissure aux guérisons. Quelle est votre maladie? C'est quoi cette maladie que vous appelez? Moi, justement, avec cette maladie-là, personne, il n'y a personne qui peut guérir. What? Oh. Non. Minimisez pas la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Il n'y a aucune maladie, aucune, j'ai dit aucune maladie, aucune, quelle que soit sa forme, qui peut résister au nom de Jésus, aucune. Aucune situation où Jésus veut dire, oh c'est trop, même moi j'arrive pas, il n'y en a pas. Aucune. Et regarde les privilèges, sacré privilège. Hein. Dieu nous accepte maintenant à nouveau. Je me réjouis par ces derniers mots que nous inclinions un peu nos têtes et que nous puissions nous examiner nous-mêmes et nous regarder, de demander au Saint-Esprit de nous révéler. Y a-t-il quelqu'un qu'on a lié pendant des années continuellement et qu'on n'a pas réussi à demander pardon ou à accepter son pardon? C'est important pour la suite. Nous sommes à la fin de l'année, pratiquement. Et on va commencer une nouvelle année, un nouvel épisode. Mais dans quel état d'esprit? Avec quel cœur? Je nous dis, je vous donne l'occasion de pouvoir rentrer en vous-même. Dis, je vous ai pardonné. Pardonnez-vous aussi. Libérez votre cœur. Votre belle-mère est méchante, oui, c'est pas grave. Pardon, pardonne. Ton mari t'a fait du tort, pardonne. Ta femme t'a fait du tort. La séparation ne s'est pas bien passée, pardonne. Pardonne. C'est pour te libérer, pour que tu viennes en étant libre. Et que cette parole qui dit, si celui à qui le Fils a affranchi est réellement libre, et que nous puissions être libres, on ne peut pas passer auprès de la croix et rester le même. Ce n'est pas possible. Il se passe toujours quelque chose. La croix est puissante. La croix de Christ est puissante.